Alors, c'est difficile de pardonner. Ça, c'est. Vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment difficile quand vous avez été offensé, blessé, trahi, et puis voilà. C'est ce sentiment là qui reste des années dans nos cœurs, et on vit comme si voilà, tout allait bien et que les relations sont bonnes et que voilà. Et pendant longtemps j'ai fait ça. Mais pardonner, c'est difficile, mais c'est possible vraiment avec l'aide du Seigneur. Alors mon père, il n'a pas toujours été un alcoolique. J'ai des souvenirs de mon papa, qui était très serviable, qui aidait ma maman aux tâches ménagères. Il nous emmenait au cinéma quand on était petites, ma sœur et moi. Et c'était un papa gentil, je peux dire ça. Et tout d'un coup, un jour, ça change. Ce papa, il se transforme. Et il devient violent, autoritaire, méchant. Il inspire la peur à toute la famille. Et à cette époque, j'ai à peu près entre 8 et 9 ans à peu près, comme je pense, voilà, les enfants qui sont là. Et puis je ne comprends pas ce qui se passe, parce que voilà, je ne comprends pas. Je suis complètement déstabilisée dans ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi mon papa il a changé. Et donc ma vie va être un vrai cauchemar. Nos vies, puisque on est 8 enfants, et ça va être vraiment compliqué. Mon père, il rentre ivre, il sème la terreur dans la maison, il injure, il cogne si violemment ma maman qu'elle va perdre son bébé, voilà, mon petit frère. Et pendant toute mon enfance, je vais assister donc à ces scènes de violence, excusez-moi. Et la peur, la sécurité va s'installer dans la maison. Et puis un jour, pendant les vacances scolaires, des missionnaires viennent là où on habite et puis proposent des camps, on va dire un peu des camps de vacances, et où ils vont nous raconter les histoires bibliques, et voilà, tous les enfants du quartier vont être invités à venir assister à ces choses là et pour la première fois j'entendais en fait voilà, des histoires bibliques, histoires de Daniel dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, voilà. Un Dieu qui est capable de fermer la gueule d'un lion, qui est capable que les gens soient pas brûlés dans des flammes. Voilà, c'était extraordinaire ce que j'entendais. Et ça me fascinait. Je me disais, waouh, mais c'est extraordinaire. Et dans ma petite tête d'enfant, je me disais, mais Dieu, il est capable de faire toutes ces choses-là. Alors, ils peuvent nous venir en aide dans notre situation. Parce qu'on était vraiment effrayés quand mon père était dans cet état ivre. On essayait de se protéger, mais on était vraiment sans défense devant lui. Et le mal qu'il nous faisait, en fait, nous terrorisait. Et on aspirait, en tout cas, j'aspirais vraiment à voir quelqu'un de beaucoup plus grand que tout. Voilà, tout ce que je vivais, tout le mal que notre père nous faisait endurer, quelqu'un de plus fort que le mal pour qu'il s'interpose entre lui et nous, qui nous protège, qui nous garde. Et je soupirais après un papa comme ça, un papa qui soit meilleur que celui que j'ai, un papa qui me protège, un papa qui soit vraiment dans ce rôle de protection, de soin qu'il peut nous apporter. J'aspirais vraiment à ça. Et donc, pendant ce temps où vous me racontez des histoires, il y avait un appel pour les enfants. Et donc, moi, je vais accepter Christ dans ma vie. Et aussi, mes frères et sœurs vont accepter Christ. Et je voulais vraiment que ce Dieu-là devienne mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Et qu'il soit vraiment ce protecteur dont j'avais besoin. Ma mère, entre-temps, aussi, reçoit une Bible, accepte Christ dans sa vie. Et voilà, on est nous les enfants. Et puis, ma maman, on est des enfants de Dieu. Voilà. Et puis un soir, alors qu'on était endormis, on est soudainement réveillé en pleine nuit par des bruits de meubles jetés sous les murs, des éclats de voix, et voilà, on se précipite vers notre maman qui, elle, est debout dans la salle, et mon père en face de lui avec son coutelas. Alors on était tout autour, tout à côté de maman, et mon papa avance avec un coutelas dans la main. Ah oui, un coutelas, c'est le sabre, voilà. une machette, voilà, une machette. Donc, il avance vers ma maman avec cette machette dans les mains, ivre. Et tout d'un coup, ma mère se met à crier, « Au nom de Jésus, tu t'arrêtes !» Et là, mon père, oh, il s'arrête. Le coutelas lui tombe des mains. Et il est debout devant nous et il ne peut plus avancer. Puis nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Il ne dit plus rien, il est là. Et il se retourne et puis il s'en va. Ce soir-là, on avait assisté à quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous avait protégés. C'était incroyable. La puissance du Seigneur, là, visible, vraiment. Et Dieu nous avait gardés. Et ça, c'était quelque chose qui m'a marqué. J'étais petite, mais ça m'a marqué toute ma vie. Et à partir de ce jour-là, mon papa, il n'a jamais levé la main sur nous. Mais les violences continuaient quand même. Tout était un prétexte pour lui, pour se mettre en colère, pour nous injurier. Mais on était quand même rassurés qu'on était protégés, que le Seigneur nous protégeait. Puis il y a beaucoup de souvenirs qui se sont effacés de ma mémoire. Et puis en préparant mon témoignage il y a quelques temps, Dieu me remet en mémoire des choses. C'était incroyable. Notamment, je me rappelle quand j'ai accepté Christ et puis on nous a expliqué que tous ceux qui rejettent Jésus, tous ceux qui n'acceptent pas Christ dans leur vie, ben, ils n'hériteront pas de la vie éternelle puis ils iront en enfer. Et je me souviens avoir pensé à mon papa et je me disais, mais ça veut dire que si mon papa ne lui croit pas, ben, il va aller en enfer. Et ça m'a rendu triste. Et j'ai prié, je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, mais je ne veux pas qu'il aille en enfer, sauve-le s'il te plaît. Et je saurais 40 ans plus tard que Dieu avait entendu la prière de cette petite fille qui ne voulait pas que son papa aille en enfer. Et donc, mon père, pendant ce temps, continuait vraiment à nous mener la vie dure, vraiment. Et le temps passe, je deviens une adolescente, et ce soir-là, comme son habitude, il fait la tournée des bistrots, bien sûr, et il rentre ivre, excité par l'alcool, et il ne supporte pas de nous voir. Et au milieu de la nuit, il commence à jeter les meubles, faire du bruit, et dans la panique, on quitte la maison, tous, et on se sépare. Au milieu de la nuit, vous imaginez. Ma sœur et moi, on se retrouve quelque part. Et on ne sait pas où aller, où dormir. C'était dans la nuit, on a peur. Et c'est à ce moment-là qu'on se rappelle de toutes les histoires effrayantes qu'on vous a racontées. Et je vous laisse imaginer dans quel état psychologique on était. On avait vraiment peur, on se tenait serrés toutes les deux. Et on cherchait un coin à se mettre, pas pour dormir, mais au moins se poser. Et là, on a vu une voiture abandonnée, on est rentré dedans, et là, on est resté dans cette voiture, jusqu'au petit matin. Et le lendemain matin, on avait école, bien sûr, puis on avait peur de rentrer. Donc, on a attendu que mon père parte au travail, et puis on est rentré pour se préparer pour l'école. Ça s'est passé pendant le week-end, hein, donc le dimanche. Le lundi, en sortant de l'école, donc on arrive dans le petit chemin qui nous emmène à la maison, et on a une véranda et avec une petite table, un banc. Et j'arrive, et qu'est-ce que je vois? Je vois mon père, ma mère assise, et mon père, sa tête sur les genoux de ma mère, comme si voilà, c'était un couple tellement heureux, tellement, qui s'entendait tellement bien. Et là, je dis, mais c'est pas possible, mais c'est se moque de nous, là, c'est quoi ça? Et je sens en moi mais une émotion intérieure, un sentiment mais terrible, fort de haine. Je dis, mais il veut faire croire que voilà, tout va bien, alors que la veille, ils nous avaient mis à la porte, ils nous avaient dit, c'est quoi ça? C'est vraiment, Et tout d'un coup, au fond de moi, il y avait cette haine, ce dégoût, mais vraiment, je vous le dis avec des mots, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait à l'intérieur, vraiment. Et à ce moment-là, je me rends compte que je ne peux plus le supporter, il me dégoûte à un tel point, c'était viscéral, vraiment. Et je ne supportais pas qu'il me touche, je ne supportais pas qu'il touche, je sais pas, qu'il mange dans une assiette ou qu'il boive dans un verre. Je repérais, quel verre, quelle assiette, et je les jetais à la poubelle ou je les cassais parce que je ne voulais surtout pas avoir à utiliser les mêmes couverts que lui. Et c'était quelque chose de très compliqué, très difficile parce que je vivais dans la même maison que lui, tu vois. Et donc j'étais très malheureuse de cette situation. Je ne supportais pas vraiment la vue de mon père et je faisais tout pour l'éviter. Et je gardais ça au fond de moi, ce sentiment-là. En même temps, j'avais honte parce que, en général, on aime ses parents. Et je me rendais bien compte que ce que je ressentais au fond, c'était pas normal. Et plus tard, je suis maintenant une jeune fille de 17-18 ans. Je me dis, comment est-ce que je vais vivre ma vie? Est-ce que je vais passer toute ma vie dans la maison avec un papa comme ça? Ce n'était pas possible. Et ma sœur, j'avais déjà une de mes sœurs qui habitait ici. Et elle envoie un courrier et puis elle propose que je vienne vivre avec elle. Waouh, qu'est-ce que c'était? Moi, je crois que c'était la chose la plus merveilleuse que j'avais entendue, la chose la plus merveilleuse qu'on m'avait proposée de toute ma vie. Et j'étais tellement heureuse et je voulais tellement y aller. Et je dis, oh là là, c'est ce qu'il me faut, m'éloigner de cet homme le plus loin possible, ne plus avoir à le supporter, c'est ça qu'il me faut. Et j'étais tellement heureuse de pouvoir partir, de m'éloigner de lui. Et c'est ainsi que je suis arrivée ici en France. Et donc la distance, le fait de ne plus le voir, voilà, j'ai commencé à mener une vie tranquille. Je ne pensais plus du tout à lui et je me disais, si un jour on me dit qu'il est mort, jamais je paierai un billet pour aller le voir parce que c'est, voilà, si j'avais mis de la distance, c'était pour moi, il était mort, je ne voulais plus du tout avoir affaire avec mon père. Et donc, ma vie commence ici. Voilà, je vais rencontrer l'homme qui allait être le papa de mes enfants, je suis mariée, tout va très bien, 12 années passent, tout va toujours très bien, mais personne, je fréquente l'église bien sûr, personne ne sait ce qui se passe au fond de moi, personne ne voit cette souffrance au fond, personne ne le voit, il n'y a que Dieu qui le voit. Et moi, je fais tout pour qu'on ne le voit pas. Donc, je porte des masques, un masque. Et je montre que tout va bien. Jusqu'au jour, dans une réunion de dames, on va parler, Elvire va parler de deux passages dans la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 2, versets 9 à 11, qui dit, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Le verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et le deuxième, 1 Jean 3, verset 15, quiconque est son frère, ou son père, ou sa sœur, ou sa mère, tout ce que vous voulez, est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ou meurtrière n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Waouh, c'était violent pour moi ça. Malgré toutes ces années, je pensais que j'étais comment ? Ça s'était calmé, et en tout cas, ça c'était pas aussi violent, aussi dur, puisque j'avais réussi à mettre un couvercle dessus, à faire comme si voilà, ça n'existait pas. Et bien, tout d'un coup, le couvercle saute, et ça revient. Et pendant toute la durée de cette réunion, je ne vais pas me sentir bien. Pendant toute la semaine qui va suivre, ça va me hanter, ma conscience, voilà. Je suis bouleversée, troublée à l'intérieur. Je ne suis pas bien du tout. Mais je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas, parce que cette réalité-là, elle est trop difficile. Trop difficile à affronter. Et je ne veux pas le voir. Alors, ce que je fais comme si. Tu vois, et en même temps, je sais, au fond de moi, que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de remuer ça parce qu'il veut faire quelque chose là. Mais je ne veux pas affronter ça. C'est trop difficile. Et je me persuade que tout va bien, que je peux continuer à vivre comme ça. Mais au fond, ce n'est pas ça. Ça se bousculait à l'intérieur de moi. Et je me dis, je tremble à l'idée que Dieu me dise, il faut que tu pardonnes, va pardonner. Je tremble à cette idée-là parce que ce n'était pas possible que je puisse faire ça. Et donc, voilà, je faisais tout pour que ça puisse pas se voir et que je puisse quand même réussir à vivre une vie normale, sans que ça puisse interférer dans ma vie. Mais c'est méconnaître le Seigneur quand il veut travailler dans nos vies. Il y va avec douceur, mais il ne nous lâche pas. Et donc, j'essaie de trouver toutes sortes de raisons pour me justifier auprès du Seigneur et lui dire que c'est trop difficile, je ne peux pas. Et puis, de toute façon, c'est lui le coupable. Ce n'est pas moi, j'étais qu'une enfant. Comment tu peux me demander ça à moi? Non, ce n'est pas possible. Et donc, pendant tout ce temps où j'avais cette lutte-là, en même temps, je voyais toute la patience du Seigneur, tout son amour, toute sa tendresse pour m'amener à être convaincue que c'est ça. Et le Seigneur, il sait bien faire ça. Hein. Il fait ça tellement bien. Et parce qu'en fait, Dieu, il comprend nos difficultés. Je veux dire, il était là quand ça s'est passé. Il l'a vu. Il a vu tout ce qui était là dans mon cœur. Il a attendu toutes ces années. Je me dis, quelle patience. Et il était compatissant avec moi. Tu vois, il voyait ma faiblesse. Il voyait vraiment cette difficulté que j'avais à affronter ça. Mais avec tout son amour, toute sa tendresse, il m'a amenée petit à petit à finalement voir qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y en avait pas d'autre. C'était que celle-là, le pardon, le chemin du pardon. Et donc, j'ai capitulé devant le Seigneur. Mais quand même, je lui ai dit, bon, je suis d'accord de pardonner, Seigneur. Alors, je vais écrire une lettre à mon papa. Je vais dire, écoute, voilà, j'ai choisi de te pardonner tout le mal que tu m'as fait, etc. Et puis, je poste la lettre, et puis vas-y. Et là, dans mon esprit, je sais, Dieu me dit, mais non, tu dois le rencontrer, puisqu'il te dégoûtait tellement. Comment peux-tu savoir qu'il ne te dégoûte plus si tu ne le vois pas, si tu ne le touches pas? Et là, le vrai combat va commencer pour moi, parce que c'est... Voilà, c'est ça. C'est le point sensible. C'est que ce dégoût que j'avais qui était là, à l'intérieur, eh bien, pour être sûr que je lui avais pardonné, il fallait que je le rencontre, que je le voie. Et là, j'ai dit au Seigneur, ben, écoute, avec 5 enfants, ce n'est pas possible. Je n'ai pas les moyens financiers. Personne ne peut garder les enfants. Donc, ce n'est pas possible, en tout cas pas pour l'instant. Je ne voulais pas me croire, mais dans la semaine qui a suivi, mon frère qui vient et qui me dit, écoute, je dois partir là-bas en Guadeloupe, je vais partir définitivement, donc je vais aller voir papa, je vais voir avec lui si je peux reprendre la direction de l'exploitation. Et puis voilà, et puis je me rends compte, ça fait longtemps que tu n'es pas parti, accompagne-moi, ça te fera du bien et tout ça. Alors, je lui dis, je ne pense pas, il n'y a personne qui voit des enfants, je n'ai pas les moyens. Il dit, écoute, je te paye la moitié du billet. Et puis, on va demander à maman, comme ça, elle gardera les enfants. Waouh, je dis, c'est pas possible. Il dit, tu verras et tout. Ma maman dit oui. Il me paye, mon frère paye la moitié du billet. Tout est en train de se mettre en place. Et Dieu me montre, mais voilà, je suis en train de tout mettre en place pour que tu puisses y aller et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire non, non. Non, Dieu me montre. Voilà, c'est ça que je veux que tu fasses. Il faut que tu le fasses. Et ça, c'est assez difficile parce que tout en sachant que c'est ce que Dieu veut, je me disais quand même, il y a une autre solution. Pourtant, il n'y en avait pas d'autre, hein, mais on essaie de trouver, on essaie de chercher parce qu'on ne veut pas affronter ça. Et voilà, je vais donc partir là-bas voir mon père. Et dans l'avion, je suis douée à l'intérieur parce que je ne sais pas ce que je vais rencontrer. 12 ans, je n'ai pas vu mon papa. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et je suis nouée pendant tout. Et pendant les 8 heures de vol, je ne vais pas dormir. Parce que je suis stressée, je ne suis pas bien. Et voilà, on arrive. J'arrive dans ce petit chemin. Je vois la maison. Il faisait encore sombre parce qu'à l'époque, on voyageait la nuit. On arrivait au petit matin. Donc, il faisait encore sombre. Et tout d'un coup, tout me revient. Les odeurs. Il n'y avait pas de lumière, mais je pouvais imaginer tout ce que j'avais laissé, en fait. Et j'arrive dans cette maison. Elle est intacte, comme je l'avais laissée. Elle est comme ça. Il y a encore la table. Il y a encore ce banc qui est là. Alors, il est plus bleu. Il était bleu, mais il n'était plus bleu. Il était blanc. Mais c'est le même banc. Et là, je regarde et je vois tout est pareil. Rien n'a changé. Les odeurs, tout. Et là, tout d'un coup, l'angoisse monte. Je regarde juste en face, il y a une montagne. Et là, je regarde juste en face. Et là, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais tout est resté comme si ça m'attendait. Je ne sais pas pourquoi, mais rien n'avait changé. Et là, tout d'un coup, je dis, Seigneur, c'est terrible ça. Mais rien n'a changé. Et mon cœur bat. Je me dis, comment je vais rencontrer mon père? Comment, voilà. Et tout d'un coup, j'entends juste derrière moi quelqu'un qui s'avance. Elle dit ces choses. Mon papa traîne beaucoup les pieds avec des... Et j'entends ce bruit-là. Et alors, je sens que mon cœur, il va se décrocher. Et je n'arrive pas à me retourner. Je suis face à la montagne et je sens qu'il arrive derrière moi. Et là, je suis prise de panique et d'angoisse. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. J'y arrive pas. Et mon père, il s'approche. Il est tout près derrière moi. Et là, je n'arrive pas à me retourner. Je suis comme bloquée. Et là, je crie à Dieu. Et tout d'un coup, il pose sa main sur mes épaules, sous mon épaule. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis retournée. Et là, je vois cet homme devant moi, vieilli. Il a beaucoup vieilli en 12 ans. Et lui, visiblement, il est content de me voir. Il est heureux de me voir. Et moi, je me tourne et je le regarde. Et là, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est qu'à l'intérieur de moi, comme quelque chose qui a, tu vois, La compassion a rempli mon cœur. La compassion a rempli mon cœur. Et à ce moment-là, il m'a pris dans ses bras et tout. Et au miracle, il ne me dégoûtait plus. Il ne me dégoûtait plus. J'avais plus envie d'aller me laver, courir aller me laver. Et pendant tout ce temps-là, on va s'asseoir sur ce vieux banc, ce banc où justement ma haine a pris naissance. C'était sous ce banc-là qu'on s'est réconciliés, mon papa et moi. Nous étions assis tous les deux. Et voilà, je lui racontais voilà, que j'ai 5 enfants, comment ils s'appellent, etc. On faisait connaissance. Comme si c'était la première fois qu'on se voyait. On faisait connaissance, on parlait, etc. Et après, je lui dis, papa, tu sais pourquoi je suis là? Je suis là parce que pendant des années, j'avais de la haine pour toi dans mon cœur. Parce que tu nous as fait ci, tu nous as fait ça, etc. Mon père, il écoutait. Il me regardait, il écoutait. Il ne pouvait pas dire un mot. En général, quand on dit à quelqu'un, je te pardonne ce que tu m'as fait, la personne te répond, ben moi aussi, je te pardonne. Mais là, mon papa, il n'a pas dit ça, en fait. Il n'a pas dit ça. Et ça ne m'a pas contrariée, ça ne m'a pas du tout frustrée. Parce qu'en réalité, le pardon, ça doit vraiment venir du cœur, en fait. On ne demande pas pardon pour, en réponse à l'autre. On demande pardon parce qu'on réalise, en fait, que ce qu'on a fait à l'autre était cruel. Et qu'on mesure la gravité de ce qu'on a fait. Et à ce moment-là, ce pardon qu'on m'a accordé, elle va être sincère. Mon papa, il n'était pas prêt. Mais ça, ce n'était pas grave. Ce qui était important, c'est que moi, de mon côté, cette haine était partie, la compassion de Dieu était venue et la réconciliation pouvait se mettre en place. Et voilà, je vais passer ce temps à prendre soin de mon papa. Incroyable. Seigneur m'avait donné une énergie pour m'occuper de lui, faire le ménage, laver son linge, préparer à manger. Les gens autour de moi qui le connaissaient disaient, mais ça ne sert à rien, pourquoi tu fais ça? Ça n'en vaut pas la peine, il n'en vaut pas la peine. Parce que mon père est quelqu'un qu'on n'aimait pas beaucoup, hein, parce qu'il a fait du tort à plein de gens, et donc les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi moi je faisais tout ça pour lui, tout en sachant ce qu'il nous avait fait endurer, parce que tout le monde était au courant de ce qu'il nous faisait endurer. Et il ne comprenait pas mon geste, pourquoi? Parce que je lui faisais du bien, alors que lui nous a fait du mal. Mais je ne me décourageais pas. Je continuais. Des fois, ce n'était pas facile parce qu'il buvait encore, mon père. Ce n'était pas facile des fois. Mais le Seigneur me renouvelait et je continuais à lui faire du bien, malgré tout, à être compatissant avec lui. Et régulièrement, je venais donc voir mon papa, régulièrement. Et bon, j'ai aussi correspondu avec lui, je lui téléphonais, tout ça, prendre des nouvelles, et en même temps témoigner de l'amour de Jésus et tout. Puis les gens, là-bas, voilà, entendaient des échos, oui, il a beaucoup changé, Monsieur Bébé, il a changé, on sent qu'il a un changement en lui et tout. Et puis, un mois d'août, je crois, je vais le voir, et puis il me dit qu'il a mal aux pieds. Et moi, je lui dis, mais il faut voir un médecin. Et il me dit, oh, ça ne doit pas être bien grave. Et je lui dis, tu veux que je te masse les pieds? Moi, dire ça à mon père, il y a quelques années, ça n'aurait été jamais possible. Et donc, je lui prends son pied et je lui masse son pied. Ce n'était pas la partie de son corps le plus propre, hein, mais voilà, je masse son pied. Et finalement, au bout de quelques temps, on va voir qu'il y avait une gangrène qui va monter à la jambe et on sera obligé de l'amputer de la jambe. Mon père va être dans le fauteuil roulant. Difficile pour un homme qui est très indépendant de se trouver cloué dans un fauteuil roulant. C'était très difficile pour lui. Mais il a quand même accepté. Et quand après je suis venue, je lui ai dit, papa, tu sais, on peut te louer un fauteuil électrique pour que ça soit plus facile pour toi de te déplacer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, ma fille, quand j'avais mes deux jambes, j'allais sillonner tous les bars du quartier. Aujourd'hui, si je suis dans ce fauteuil roulant, c'est que Dieu l'a voulu. Dieu m'a mis là. Jamais j'aurais cru ça de la bouche, sortie de la bouche de mon papa. Et ça, c'était déjà une petite fenêtre que Dieu ouvrait, montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans son cœur. Mon père était hostile à l'évangile. Quand on venait à la maison pour faire des réunions de prière, il mettait tout le monde à la porte. On a essuyé des hontes, mais pas possible avec mon père. Là, mon père, il avait sa Bible ouverte tous les jours. Sa Bible ouverte, il lisait la Bible. Et puis un jour, toujours au mois d'août, cette fois-ci c'est avec Georges, on vient le voir, tous les jours on vient le voir, et on partage notre foi avec lui. Je lui raconte comment Dieu l'a délivré de l'angoisse de la mort, etc. Et mon père, il est là, il boit les paroles, il est suspendu On lève de changer, il boit les paroles et tout. Et moi, j'enchaîne pour lui dire combien Dieu nous aime, combien le Seigneur, il a donné sa vie pour nous, combien... Voilà. Et après, je dis, papa, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as demandé pardon pour tes péchés, etc.? Il me dit, oui, ma fille, j'ai réglé ces choses-là. J'ai réglé ces choses-là. Oui, c'était extraordinaire ce que Dieu est en train de faire dans la vie de mon papa. Et puis, le temps passe. Et en décembre 2011, mon frère va partir en vacances. Et là, il va dire à mon papa, avant de partir, écoute, si tu as quelque chose à dire à la famille là-bas en métropole, je vais te filmer et puis voilà, délivre ton message. Mon frère va le filmer et là, il va dire dans la vidéo à ma maman, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Et si tu veux vraiment revenir chez toi, tu peux venir. Tu peux venir chez toi. C'est, voilà. Oublie le passé. Voilà, on va... Voilà. Ça, je n'aurais jamais pensé une chose pareille non plus. Mais voilà. En 2011, ça s'est passé. Au mois de février de l'année 2012, mon père, on va nous dire qu'il est très malade. Alors moi, je vais à la Réunion des Dames, je suis à l'arrêt du bus, c'est un jeudi. Je prends le téléphone, je l'appelle avant que le bus arrive, je dis, papa, écoute, voilà, j'apprends que tu es malade, qu'est-ce qui va pas? Il me dit, non, ma fille, t'inquiète pas, je ne suis pas malade. Je n'ai plus d'appétit, je ne mange pas, mais je ne suis pas malade. Mon père ne pas manger, c'était un bon vivant, c'est quelqu'un qui mangeait bien. Et là, il ne mange pas depuis 10 jours, quand même. Voilà, il faut que tu consultes, va voir les médecins. Et puis, mais non, t'inquiète pas, tout va bien, etc. Donc ça se passe le jeudi. Le vendredi, on reçoit un coup de fil encore, écoutez, on a dû le transporter à l'hôpital parce qu'il ne va toujours pas bien, etc. Le samedi, on reçoit encore un coup de fil, il ne va pas très bien du tout, il ne peut même plus parler. Et mon père va décéder entre la nuit de dimanche à lundi. Donc on va nous annoncer ça, et donc on va tous partir donc, pour l'enterrement le mercredi, on sera tous là. Et là, je vais encore être surpris vraiment de la grandeur, la bonté du Seigneur avec mon papa. La dame qui s'occupe de mon papa, donc après l'enterrement, elle vient nous voir et elle nous dit, voilà, j'aimerais vous dire ça. Avant de mourir, je crois que c'est 2 ou 3 semaines avant, votre papa m'a fait venir et puis il voulait absolument me parler. Il m'a dit, ben, arrête le ménage, viens t'asseoir à côté de moi, il faut que je te parle. Et là, mon papa lui a dit, j'ai fait beaucoup de tort à mes enfants. J'ai fait beaucoup de tort à ma femme. J'étais quelqu'un de méprisable. Voilà. Je regrette vraiment. Je demande pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai fait. Et je réalise que ma vie a été un gâchis. Ma vie a été un gâchis. Elle nous raconte ça. Et puis nous, mes frères et moi, on est là et puis on dit, mais c'est pas possible. Vous voyez comment on est incrédule des fois. Hein. C'est pas possible. J'ai un frère, lui, il était très sceptique. Il a dit, mais non, cette dame ment, c'est pas possible. Il dit, mais quel intérêt elle a de mentir? Quel intérêt elle a de mentir? Et donc cette dame, elle nous dit, votre papa, il était vraiment... il avait des larmes. S'il pouvait se mettre à genoux, il se serait mis à genoux. Il était dans le fauteuil, mais voilà. Contrit, vraiment brisé. Et voilà ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, quand tu veux l'amener à la repentance, à reconnaître ce qu'il est et combien lui lui fait grâce. Et mon père, il a, voilà. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait, vraiment. Et je réalise en fait que quand nous, personnellement, on a subi des offenses, on pense que nous, personnellement, c'est nous qui sommes touchés le plus. Et que Dieu, en fait, il veut voilà, qu'on règle ce problème-là pour nous, pour notre bien personnel, ou bien voilà, pour notre relation. Pour, voilà. Oui, c'est bien tout ça. Mais le projet de Dieu, il va plus loin. Il va plus loin. Il n'est pas que pour nous. Dieu veut aussi sauver celui qui nous a offensé, celui qui nous a fait du mal. Dieu veut le sauver aussi. Et est-ce qu'on est d'accord, nous, d'être ces instruments que Dieu veut utiliser pour sauver l'autre? La parole de Dieu dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. Ça, c'est le projet de Dieu pour les hommes. Dieu veut les sauver, quels qu'ils soient. Moi, ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai vécu, c'est que Dieu était là quand tout s'est passé. Il a mis des limites. Ça aurait pu être plus grave, parce que ce soir-là, où mon père a pris son coutelas, il y aurait eu des cadavres dans la maison. Il y aurait eu des morts. Dieu a mis des limites. Dieu, dans chaque situation, en fait, il nous a gardés, nous protégés. Au début, on n'était pas conscient de ça. Mais après, on s'est rendu compte que ce Dieu-là, il était le gardien de nos vies. Et que tous ces événements-là, que ce soit pour nous, que ce soit pour mon papa, Dieu avait quelque chose à nous apprendre, mais il voulait absolument sauver. Il voulait faire du bien à mon papa. Et le fait que, voilà, je puisse, qu'il me fasse la grâce d'obéir et de faire cette démarche qui était tellement difficile, mais il m'a accompagnée dans ça. Seigneur, ce qui m'a vraiment touchée, c'est tout cet amour que Dieu nous entoure, nous environne quand on est blessé, quand on a mal. Il n'est pas en train de nous forcer, nous obliger, nous mettre un couperet sous la tête. Il nous dit que c'est ça qui est bien pour nous. Il nous le dit. C'est ce chemin, ma fille, c'est ce chemin que j'ai choisi pour toi. C'est celui-là qu'il te faut pour être complètement libre, pour faire du bien. Et si on ne se laisse pas porter par le Seigneur pour accomplir ce qu'il veut, eh bien, on bloque des situations, on met des barrières et on est des fois même... On serait peut-être accusé pour non-assistance à personne en danger parce que les personnes qui nous ont fait du mal ont besoin du Seigneur. Et le Seigneur nous utilise pour aller vers eux et pour leur apporter d'être des instruments de sa grâce auprès de ces personnes. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que mon papa est auprès du Seigneur. Mais il y a quelques temps, je veux dire, moi je voulais qu'il meure. Je me dis que c'était une erreur. Dieu n'a pas pu voir un homme comme ça sur la terre. Mon père était irrécupérable pour moi. Et donc, personne n'est récupérable. Personne n'est récupérable. Dieu, il veut sauver tous. Même le terroriste qui a tué des milliers de gens. Le Seigneur veut le sauver lui aussi. Et je me dis, vraiment, il faut qu'on sache ça, que oui, Dieu aime les êtres humains. Il veut les sauver. Et Dieu nous utilise, nous, dans les situations qu'on vit. Parce que des fois, on se dit qu'on ne voit pas le bien que Dieu peut faire avec ce qu'on vit. Mais oui, son plan et son projet s'accomplissent toujours. Quoi que nous fassions, Dieu, il a un projet, un plan, il va quand même s'accomplir. Et moi, je vais vraiment vous encourager, si vous avez des problèmes de pardon avec un membre de votre famille, avec un collègue, un ami, laissez-vous conduire par Dieu. Désirez au fond de votre cœur d'être ses instruments pour le bien des autres. Parce que Dieu, il veut vraiment que nous soyons libérés de ces choses-là. Mais aussi, il veut aussi toucher le cœur des autres par le bien qu'il va faire à travers nous. Parce qu'en fait, finalement, c'est nous qui représentons Dieu. C'est nous qui manifestons son amour. Quand j'enlace une de mes sœurs, je lui montre de la tendresse. C'est Dieu qui le prend dans ses bras. Quand je vais demander pardon à quelqu'un, c'est Dieu à travers moi qui veut toucher cette personne, qui veut libérer cette personne. Et est-ce que je veux être cet instrument? Est-ce que je veux me laisser porter par Dieu pour accomplir cette œuvre-là? Et ne nous laissons pas bloquer par ça. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué. Et ça, c'est mon histoire, mon expérience. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu aussi des choses difficiles, et peut-être que jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. Mais quittez pas cette terre sans avoir réglé ces problèmes-là, parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi. C'est dans les souffrances, dans les situations compliquées qu'on grandit aussi, et qu'on apprend à connaître vraiment le Seigneur, son projet pour nos vies, et comment on veut aussi qu'il se manifeste dans la vie des autres aussi. Et je veux vraiment vous bénir au nom du Seigneur et vous encourager à... Qu'importe ce que vous avez comme a priori, mais faites confiance au Seigneur et acceptez qu'il vous utilise vraiment pour le bien de l'autre, pour que l'autre aussi soit libéré et qu'il puisse jouir de la pleine vie de Dieu en lui. Et vraiment, ça c'est ma prière pour vous et je vous encourage vraiment à méditer sur ces choses que Dieu vous montre dans vos vies qui, comme on a dit, hein, qui nous cachent sa face, qui empêchent que sa grâce se manifeste. Alors, il y a le pardon, mais il y a aussi autre chose que Dieu peut vous révéler. Mais en tout cas, voilà, le Seigneur, il vous parle, il va vous accompagner. Et de toute façon, il sait mieux que nous ce qui est bon et il sait nous accompagner dans ce qui est bon pour nous. Soyons pas incrédules, soyons pas, n'ayons pas la nuque raide. Mais voilà, si nous sommes des enfants de Dieu, de toute façon, voilà, le Seigneur accomplira son œuvre en nous et pour le bien des autres aussi. Voilà, merci.